Et je me suis posé la question, là, on chantait un dernier chant qui s'appelait « Se laisser surprendre ». Est-ce que je suis encore capable de me laisser surprendre par Dieu ? Ah, ok. Voilà, je répète peut-être la question. Est-ce que, on a chanté tout à l'heure, être surpris par sa majesté, est-ce que je suis encore en mesure ? Souplesse, souplesse de cœur, souplesse, souplesse personnelle, de me laisser surprendre. Alors j'espère que ce matin, je vais peut-être vous surprendre, on va cesser de surprendre par la parole de Dieu. J'espère que ce sera le cas. Sinon, ben, voilà, ce sera peut-être demain que vous allez vous faire surprendre. Il y a très longtemps, un homme riche, un patriarche, a eu des gros problèmes dans sa vie. Mais vraiment, quand je dis gros problèmes, c'est gros problèmes. Il a quasiment tout perdu, sauf sa vie. Peut-être que vous devinez un petit peu de qui je veux parler. Il a perdu sa santé, ses enfants, sa richesse, peut-être même sa femme, parce qu'à un moment donné, il y avait quand même un... Mais vous lirez ça peut-être ce soir. Et puis, il avait trois amis. Ces trois amis, ils sont venus le voir assez rapidement. Ils sont assis à côté de lui pendant 7 jours. Et ils ont vu cet homme, il s'appelait Job, cet homme dans une détresse absolue. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont adressés à lui. Et en fait, ils n'ont pas compris pourquoi Job était tombé dans une telle détresse. Ses amis s'appelaient Eliphaz, ils s'appelaient Bildad et Tsophar. Et ce dernier Tsophar, il a dit, si tu es tombé aussi bas, c'est que Dieu te punit de quelque chose, tu as forcément mal agi. Et en fait, il s'est vraiment trompé, ce n'était pas du tout le cas. Mais vous lirez le livre de Job à tête reposée, c'était un très beau livre de sagesse, c'est peut-être le premier livre de sagesse. Et on va se laisser interpeller par Job au chapitre 12, les versets 7 à 10. Mais auparavant, j'aimerais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Nous sommes là, peut-être dans une attente, peut-être pas dans une détresse, mais en tout cas dans une faiblesse. Et nous voulons t'accueillir. Tu es ce Dieu si riche en bonté, on a chanté ta bonté, ton amour, ta bienveillance, et nous voulons t'accueillir. Merci de ta grâce envers chacun, chacune d'entre nous. Amen. Job 12, versets 7 à 10. C'est la réponse de Job, ici. Curieuse réponse. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Par là, la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer, ils te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Surprenant. Le 27 juillet 2011, l'Église de Jésus-Christ perdit une de ses grandes voix. Ah, voilà. Ce monsieur s'appelait John Stott. Il est décédé à l'âge de 90 ans, sans doute que vous le connaissez. Il a écrit une cinquantaine d'ouvrages que je vous recommande vraiment. C'était un révérend anglican, essayiste, théologien. Je pense que ses livres sont à consommer sans modération. Il fut un des grands noms du monde évangélique de ces dernières années. On peut en citer par exemple le Christ incomparable, La foi évangélique, c'est des petits livrets assez faciles d'accès. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'en lire un, je vous le recommande. Il n'eut de cesse de proclamer l'autorité des Écritures, l'importance du sacrifice de Christ, la nécessité d'une foi personnelle et le travail de la sanctification. Il fut en outre aussi l'aumônier de la reine d'Angleterre pendant plus de 30 ans. Alors, ce qu'on sait peut-être beaucoup moins, c'est que ce fut un grand observateur de la création, de la nature. Dès que son emploi du temps le permettait, il aimait observer ses amis, les oiseaux. Il les étudiait avec passion. Il en a étudié plus de 2500 espèces à travers le monde. Donc, dès qu'il pouvait, dès que son emploi du temps le lui permettait, il sortait et il observait les oiseaux. C'est un peu surprenant hein, de la part d'un personnage comme ça. Il écrira ceci. Il me semble, c'est une citation, il me semble que l'écriture de la nature et l'étude de la Bible devraient aller de pair. Plusieurs chrétiens ont une assez bonne connaissance de la rédemption, mais ont besoin d'une meilleure connaissance de la création. Nous devrions enrichir notre foi avec au moins un aspect de l'histoire naturelle. Fin de citation. Alors, je me permets peut-être de rajouter, à quand un chapitre sciences naturelles dans les programmes de formation de nos instituts bibliques ? Une question, hein. Avant lui, bien avant lui, le grand réformateur Martin Luther écrivit ceci dans un commentaire du Sermon sur la montagne, que vous connaissez sans doute, Sermon sur la montagne, c'est un passage essentiel hein, de la parole de Dieu pour nous. Voyez-vous, il fait des oiseaux nos maîtres d'école et nos enseignants. C'est pour nous une honte grande et durable que, dans l'Évangile, un moineau impuissant devienne un théologien et un prédicateur pour les hommes les plus sages. À chaque fois que vous écoutez un rossignol, vous écoutez un excellent prédicateur. Je ne mets pas toute la série. Le rossignol Philomène. Vous l'entendez de jour, même de nuit, ça peut. Voilà. Donc, d'après Luther, ce rossignol a peut-être quelque chose à nous dire. Je vous propose ce matin de voir ou de parcourir peut-être trois points de ce que John Stott qualifiera d'ornithothéologie ou de théologie des oiseaux. Alors, en premier point, on va le lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. Un passage que vous connaissez, hein, on est à nouveau dans le sermon sur la montagne, ce texte très très important, j'ai déjà dit, Matthieu 6, à partir du verset 25, c'est Jésus qui parle ici. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et puis au verset 31 jusqu'au verset 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et puis il y a ce verset 33 que nous connaissons tous par cœur, évidemment. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Ce passage du sermon sur la montagne est connu, même bien connu. Est-ce qu'il est pratiqué? Ça, c'est une autre affaire. Jésus va illustrer son propos par des leçons, comme il le fait à plusieurs reprises, des leçons tirées de la vie courante, de la vie rurale, de ce que nous avons encore le privilège de voir autour de nous, le lys des champs, le grenier, et puis les oiseaux du ciel. Que vont-ils nous apprendre? Ou alors de quelle conception, peut-être erronée, vont-ils nous éloigner? Votre Père céleste, notre Père céleste, nourrit les oiseaux du ciel. On pourrait s'arrêter là. C'est une évidence, ça nous paraît évident. Notre Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et nous nourrit aussi, quelque part. Jésus veut aussi peut-être nous montrer que nous avons besoin de mettre en œuvre une foi active et concrète. Et en cela, il ne nous défend pas d'être prévoyants. Si comme nous, les oiseaux ont un créateur bienveillant, l'être humain est le seul à pouvoir bénéficier d'un Père céleste qui prend vraiment soin de chacun de ses enfants. Ceci ne nous dispense pas de la prudence et encore moins de la réflexion, loin de là. Proverbe 6, verset 6, justement, nous parle, dit « Regarde du côté de la fourmi ». En cela, il s'adresse aux paresseux. Regarde du côté de la fourmi, c'est une petite bête là, mais en fait, la fourmi, elle est active, elle travaille. Elle amasse des provisions durant la bonne saison, tout comme le fait aussi le jet des chênes. Vous le connaissez, celui-là? Il peut stocker plus d'un millier de glands à l'automne, selon une technique très, très étudiée. Des fois, il en perd quelques-uns, et ça permet notamment à la forêt de se régénérer. Vous avez peut-être compris, j'étais forestier pendant 40 ans. Donc, j'ai un petit œil sur la création depuis assez longtemps. Donc, le jet des chênes, voilà, il permet, il stocke, il se nourrit de ces fameux glands et il permet aussi à la forêt de se régénérer. Parce qu'il en oublie quelques-uns, mais ce n'est pas grave, on lui pardonne. Il y a aussi notre ami, la pigrièche écorcheur, qui a une technique très particulière. Elle va approvisionner son garde-manger en empalant des oiseaux, des petits insectes ou de petits vertébrés sur des épines, en perspective toujours des mauvais jours. Je suis persuadé que Jésus était un observateur perspicace. J'en suis vraiment intimement persuadé. Il n'y avait pas que John Stott. Jésus le faisait, il voyait les choses. Peut-être que ses contemporains ne voyaient plus, ne voyaient pas, ou ne voulaient pas voir. Ils savaient que les oiseaux se nourrissent eux-mêmes, évidemment. Certains sont insectivores, d'autres se régalent de baies, de graines, de nectar, des fleurs, comme le minuscule colibri. Tassalin, il fait 6 grammes, n'aime pas. 5 grammes et demi. D'autres oiseaux sont de redoutables prédateurs. Dieu leur fournit donc les moyens de se nourrir eux-mêmes. Psaume 104, le verset 27 et 28 nous dit ceci. « Il compte sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes et ils la prennent. » La foi et la collaboration avec Dieu ne sont donc pas incompatibles. L'apôtre Paul rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9, « Nous sommes tous ouvriers ou collaborateurs avec Dieu. » Nous reconnaissons que notre nourriture vient bien sûr de Dieu et nous le remercions à juste titre. Mais nous avons chacun, chacune, notre part personnelle à accomplir pour nous en saisir, avec reconnaissance, bien sûr. Reconnaissance, et non pas forcée, et non pas avec un espace d'insatisfaction perpétuelle, souvent mêlé d'inquiétude. Combien de fois je me retrouve là-dedans ? On est inquiet. Votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste les nourrit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Ça, c'est le Proverbe 12, le verset 25. Je le répète parce que je trouve que c'est un beau texte. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, paf, mais une bonne parole le réjouit. Alors j'espère que ce matin, vous aurez une bonne parole. C'est vraiment mon souhait, pour moi-même aussi. Cette bonne parole, nous l'avons lue tout à l'heure dans le chapitre 6 de Matthieu. On va poursuivre dans Matthieu, on va voir ce deuxième point. On va sauter au chapitre 10, un petit peu plus loin. Chapitre 10, le verset 28 à 31. Jésus parle ici encore. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté du Père. Et même vos cheveux sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. La grande famille des passereaux, hein. Vous connaissez ça, on a les mésanges, on a un tas de petits oiseaux que vous verrez, que vous pouvez voir. Grande famille des passereaux. Un des secrets, je trouve, important à notre équilibre réside sans doute dans une estime correcte de soi. Nous connaissons tous des personnes qui ont un ego plus que surdimensionné. Il n'y a qu'à ouvrir la télévision le soir, vers 20h, là, dans ces eaux-là. Vous regarderez, il y a vraiment des égos qui sont présents, hein, très, 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 très présents, et souvent, mais vraiment énormes. Et puis d'autres, en le constatant aussi, qui souffrent vraiment d'un, comment on pourrait appeler ça, un sentiment d'infériorité peut-être, ou quelque chose qui paralyse en tout cas, quelque chose qui empêche d'aller plus loin, qui vous tire vers le bas. On peut avoir les deux. Et je crois même que le chrétien peut connaître ces mêmes dilemmes. À la fois un ego, pas forcément toujours bien placé, et puis peut-être un sentiment vraiment, on se dit, bah, pff, voilà. Je crois que c'est pas juste non plus. Dieu nous invite, et c'est Paul qui va nous le rappeler, un renouvellement de notre intelligence pour avoir un vrai discernement. Et ouais, on va lire dans Romains 12, Paul nous invite à avoir un bon regard sur les choses. Romains 12, c'est un beau texte aussi. Chapitre 12, versets 2 et 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 2, ça c'était le verset 3, il nous dit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça, c'est un exercice. Ça fait partie de la sanctification. Ça fait partie de ce cheminement du chrétien qui passe des fois par des épreuves, des fois par des difficultés majeures. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Les Écritures nous apprennent d'une part que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais qu'un jour, il s'est passé une chose terrible, nous avons été séparés de la présence de Dieu au jardin d'Éden. Ce couple a été chassé. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et j'en fais partie. Tu en fais partie. Tous ont péché. Mais le message, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et Christ est venu nous apporter une solution. La seule crédible, la seule qui fonctionne. La communion avec le Créateur peut être restaurée. Tu as peut-être ce matin ce désir au fond de ton cœur de retrouver une communion avec ce Dieu Créateur. Je vous invite peut-être à vous adresser aux responsables de l'Église ici, d'avoir peut-être ce cheminement ensemble. La communion avec le Christ est à nouveau possible. Et c'est une pure grâce. C'est un cadeau. Pas besoin d'avoir le porte-monnaie bien garni. C'est un cadeau extraordinaire. À tous ceux qui douteraient de l'amour de Dieu, Jésus va affirmer ici, dans ce texte de Matthieu 10, « Vous valez plus que toute une volée de moineaux. » Et il va délibérément choisir une des créatures les plus communes ou les plus insignifiantes. C'est le moineau domestique. Il se trouve qu'il a un petit peu disparu ces dernières dizaines d'années pour des problèmes XY, on ne va peut-être pas les évoquer là ce matin. Mais en tout cas, je me souviens, quand j'étais un petit peu plus jeune, on avait vraiment des volées de moineaux. C'était impressionnant, quoi. Ce petit passereau un peu sautillant, un petit peu effronté, voire colérique. Vous avez déjà entendu peut-être des moineaux qui se mettent en colère, ça fait du bruit. Hein. Son pépiment n'est pas des plus mélodieux. Sa chair, parce que les oiseaux qui se mangent, sa chair est considérée comme médiocre. Son régime alimentaire varié ne le permettait pas d'être l'ami ni du jardinier et encore moins du céréalier, parce qu'il allait picorer des choses. Voilà. Bref, une piètre réputation. Une image peut-être qui me ressemble un peu. Peut-être à vous aussi, je ne sais pas. Plutôt bruyant, un peu destructeur, vaguement râleur sur les bords, voire franchement agaçant. Sur le marché des oiseaux, les moineaux figuraient parmi les moins chers. Un sou la paire, 5 pour 2 sous, une affaire. C'est un prix de gros, 5 pour 2 sous. Et pourtant, Dieu en prend soin. Pas un ne tombe à terre sans sa permission. Aucun d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Vous lisez ça dans Luc chapitre 12, verset 7. Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. En 1967, une jeune fille de 17 ans, grande sportive, va faire un plongeon dans une piscine, je crois bien. Et puis elle va se fracturer plusieurs vertèbres. Devenue totalement paraplégique, elle s'appelait Johnny Erickson. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. Elle a écrit des livres et je crois qu'elle a fait aussi plusieurs choses, dont des tableaux peints à la bouche. Très beau tableau. Johnny Erickson donna un témoignage. Elle a eu, on l'imagine, sur son lit de douleur, des moments de doute, des moments une forme de désespérance, une forme de doute. Elle connaissait son Dieu, mais voilà, elle avait ce handicap terrible. Elle nous dira ceci, je jetais un coup d'œil à la mangeoire devant ma fenêtre et je souris. Je pouvais comprendre que Jésus puisse observer un aigle, un bel aigle, mais ce rebut de moineau, cette seule pensée calma mes frayeurs. Je me sentais importante et remarquée. Si ce grand Dieu se soucie d'un pauvre moignon débraillé qui s'accroche à la mangeoire de ma fenêtre, il prend aussi soin de moi. » Elle a connu ce temps de restauration, dans cette vision du moineau sur le rebord de sa fenêtre. Dieu prend aussi soin d'elle. Alors peut-être pour toi, dans ce qui a peut-être ce sujet, pour qui ce sujet est d'actualité, tu te sens peut-être dans une phase un peu compliquée, même dans une vie chrétienne, ça peut arriver. Mais sache que le Seigneur connaît tes combats cachés. Ne crains donc pas, ne crains point, tu vaux plus. Tu vaux plus. Tu as été racheté à un grand prix. À un grand prix. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 6, le verset 20. Un rachat à un grand prix. On va faire une petite incursion dans l'Ancien Testament, dans le grand livre du prophète Ésaïe. Ésaïe a écrit beaucoup de choses. Chapitre 40 et versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Avec envie, l'être humain a regardé les oiseaux depuis la nuit des temps. Avec envie, parce qu'on voyait la légèreté, on voyait des petites bêtes qui montent. Et parmi ces petites bêtes, il y avait notamment les aigles. On se souvient tous du mythe d'Icare. Ce mythe qui nous parle d'Icare qui voulait se rapprocher du soleil, et puis à un moment donné, il n'était pas loin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil a fait son effet, quoi, et puis Icare est tombé. La loi de la gravité, paf, il est tombé par terre. On connaît aussi ces lois de la gravité, des fois. La loi du péché qui nous entraîne des fois vers le bas, qui nous entraîne des fois même plus bas que terre. Et on a des fois du mal à reprendre le dessus, à reprendre racine et à se relever. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, je m'échapperais en toute hâte. Ça, c'est le psalmiste au psaume 55, les versets 7 et 8. Je vais peut-être le reprendre parce que je trouve qu'il y a des choses à voir là-dedans. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, je m'échapperais en toute hâte. Il y a un peu de poésie là-dedans, vous ne trouvez pas? Parmi les très très bons voiliers aériens, nous trouvons donc bien sûr l'aigle royal qui figure en bonne place. 2,30 m d'envergure, ce n'est pas le plus grand, mais c'est peut-être au niveau du symbole un des plus puissants que l'histoire a retenu. On le trouve sur les enseignes des Romains, on le retrouve sur les blasons des grandes familles impériales, hein, les Habsbourg, en passant par Napoléon, ils ont tous mis un aigle sur leur blason, sur leur drapeau. C'est un symbole de victoire depuis très longtemps pour beaucoup de civilisations. Les anciens ont sans doute été impressionnés par l'efficacité de l'aigle en action de chasse, ses piquets fulgurants sur la proie. D'ailleurs, dans Lamentation de Jérémie, on voit aussi un texte qui nous parle de ça, dans la Lamentation 4, le verset 19, qui nous parle de l'aigle qui fond sur sa proie. Donc voilà, toujours un regard sur des choses de la création. Le vol de l'aigle est majestueux, il est puissant, il est basé sur la maîtrise parfaite des courants ascendants. Courant ascendant, ben, c'est quoi? C'est les mouvements d'air verticaux qui se produisent lorsque l'air chaud au sol monte progressivement dans l'atmosphère. C'est ce qui permet aussi de fabriquer quelque part des nuages et notamment des orages. Peut-être qu'on en aura besoin prochainement, quoi. Voilà, les courants ascendants. D'ailleurs, les gens qui font parapente, voilà, ils connaissent ça par cœur. D'ailleurs, des fois, ils font surprendre et puis le courant, il est vraiment ascendant. Hein, et il y en a certains qui ont resté un certain temps dans le courant ascendant. Il y a des histoires assez incroyables avec ça. Bon, bref, c'est peut-être pas le sujet, mais en tout cas, c'est intéressant. Et l'aigle utilise cela. Je crois que, un peu comme l'image de l'aigle, le chrétien est appelé à la liberté. Un des grands livres qui parle de ça, c'est l'épître de Paul aux Galates. Hein. Nous sommes appelés à la liberté en Christ. La liberté en Christ. Cette liberté, c'est un don de Dieu. Elle est issue du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Là. Ouais, c'est un don de Dieu. Et nous sommes appelés à ça. Le chrétien est appelé à la liberté, j'en suis convaincu. Une liberté parfaite en Jésus-Christ. Elle n'est pas basée sur nos mérites, encore moins sur mon porte-monnaie, ou sur nos efforts. Le colibri qu'on a vu tout à l'heure, il doit faire un effort considérable pour se maintenir en l'air. On parle de 80 battements à la seconde. Vous imaginez l'effort? 80 battements à la seconde, hein, c'est impressionnant. Ouais. Là, en tout cas, dans ce domaine-là, regardons plutôt l'aigle qui va parcourir de grandes distances uniquement en se laissant porter. Porter par le courant, laissons-nous porter par la grâce de Dieu. Laissons-nous porter par le souffle de Dieu. C'est peut-être ça aussi le secret dont parle le prophète Ésaïe, courir sans se lasser, marcher sans se fatiguer. C'est une image, hein, bien sûr. Je m'adresse peut-être à des randonneurs, à des gens qui parcourent les choses. On sait bien que quand on marche, on se fatigue. Alors évidemment, quoi, il y a un effort. Mais là, l'image, elle est là. Laisse-toi des fois porter par le souffle de Dieu. Laisse-toi porter par ce courant qui va t'élever. Laisse-toi porter par la grâce de Dieu. L'image est une image que nous porte aussi, que nous donne l'aigle, c'est une image de force, de renouvellement. Il vole au-dessus des tempêtes. Il arrive à grimper plus haut, au-dessus du nuage qui va peut-être l'amener plus bas. Et je trouve que cette image, elle est bien aussi pour nous chrétiens, des fois. Et je veux vraiment me parler à moi-même. Le Seigneur, je crois, veut m'inviter à m'élever, à aller au-delà. Au-delà peut-être de la difficulté, de la peur que je parcours en ce moment, du péché qui m'entraîne vers le bas, qui m'entraîne vers la chute. M'élever au-dessus du découragement. L'image de l'aigle nous invite à la légèreté. Et je crois que le chrétien est amené aussi à regarder, à retrouver quelque part une certaine forme de légèreté, une forme de grâce, tout simplement de se laisser porter par Christ. Dieu renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Vous le croyez, ça? Le chrétien ne doit pas rester prisonnier. ni de son présent qui l'emmène peut-être vers le bas, et encore moins de son passé. Ça, c'est aussi une difficulté. Ne restons pas bloqués sur un passé qui peut-être nous entraîne vers le bas, qui nous plombe la vie, c'est peut-être l'image, être plombé par le passé. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile. Peut-être nous avons besoin d'avoir un frère, une sœur, peut-être, qui nous accompagne dans ce cheminement. Peut-être qu'il faudra un certain temps, je ne sais pas. En tout cas, l'invitation, elle est là. Laisse-toi porter par la grâce de Dieu. Et je terminerai tout simplement par Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. J'aimerais prier encore. Seigneur notre Dieu, nous avons parcouru ces textes, ces beaux textes qui nous parlent de légèreté, qui nous parlent de reconnaissance. C'est vrai que nous voulons les prendre, je veux me les approprier aussi. Cette image du moineau brailleur qui pourtant a du prix à tes yeux. L'image de l'aigle qui m'emmène à m'élever, à rechercher ce courant qui m'amène plus haut, qui me rapproche de toi. Et puis je suis reconnaissant pour la nourriture et je veux vraiment la prendre avec reconnaissance. Mais je veux aussi apprendre que je dois me saisir aussi des choses et à être prudent et à exercer mon intelligence. Je te prie de bénir cette église ici à Bouxwiller. Je te prie de bénir chacun de nous, de nous accompagner durant toute cette semaine. Nous voulons compter sur ta grâce, sur un renouvellement de ta part. Et nous en avons tous besoin. Merci Seigneur. Amen. Merci à vous.